La Russie, c'est que pour l'instant, l'Union européenne est en stand-by en quelque sorte, parce qu'elle est absorbée par ses problèmes, par la crise de la zone euro. Et donc la Russie, en quelque sorte, fait que les grandes décisions qu'elle attendrait, par exemple son souhait d'avoir un régime sans visa avec l'Union européenne et d'autres questions stratégiques, pour l'instant, elle ne pourra pas avoir des avancées rapides. En même temps, elle sait aussi que la crise ne peut pas être sans impact pour elle, et donc elle ne peut pas faire l'économie de discuter avec ses partenaires européens. Et puis, il faut ajouter à cela le fait que c'est avec l'Allemagne que la Russie a la plus dense relation économique et commerciale, notamment en matière énergétique, que l'Allemagne est un soutien de la Russie dans l'espace de sécurité européenne, et qu'on a le sentiment en Russie que la France est quand même aussi plutôt un appui qu'un obstacle. Et de toute façon, vu de Moscou, il est nécessaire d'établir une relation avec le nouveau président français.
Donc on imagine qu'ils vont parler ensemble d'économie, d'énergie, du bouclier antimissile, mais le sujet c'est la Syrie. Comment aujourd'hui expliquer la position russe au Conseil de sécurité de l'ONU ?
Je crois que la première chose, c'est l'importance que la Russie accorde au rôle du Conseil de sécurité dans tout ce qui concerne les mesures dites coercitives, parce qu'elle a un veto et que ça lui permet donc de peser au moins en théorie sur les interventions possibles de la part des pays occidentaux qu'elle estime un peu trop interventionnistes. Et donc pour la Russie, il y a eu l'affaire de la Libye où elle avait décidé de s'abstenir, et elle considère que l'OTAN a largement outrepassé le mandat qui lui avait été donné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense que c'est un grand point dans l'obstruction russe sur ce dossier.
Donc de contrer d'une certaine manière une sorte de prédominance de l'OTAN.
Voir l'OTAN développer ses champs d'intervention, quand même l'Afghanistan, la Libye, et puis quoi demain quoi. Les Russes se demandent si demain ce ne sera pas l'Asie centrale ou son voisinage proche. Quoi. Donc ça, ça ne leur plaît pas du tout.
Et bloqué au Conseil de sécurité sur le dossier syrien, on imagine aussi que c'est une question de place stratégique au Moyen-Orient pour la Russie, non ?
Ça, je pense que la Russie est quand même se sent suffisamment fragile dans ses frontières et dans son environnement géopolitique proche pour ne pas être très satisfaite à l'idée d'un nouveau, une nouvelle redistribution des cartes géopolitiques dans une région où elle essaye d'avoir une influence. C'est vrai que si la Syrie, il y a à nouveau ce que les Russes n'aiment pas, c'est-à-dire un changement de régime plus ou moins soutenu par des actions occidentales, la Russie ne m'attend rien de bon. Or, elle a quand même une base navale logistique en Syrie. Effectivement aussi, même si ce ne serait probablement pas le point essentiel, un client pour les armements russes. Or, déjà, avec la Libye, la Russie a perdu un marché important. Donc, il y a aussi ce faisceau d'intérêts qui font que la Russie préfère le maintien du statu quo. Et ça veut dire soutenir de fait le régime Assad, ce qui ne veut pas dire apprécier ses comportements.
Le nouveau président français a assuré qu'il allait tenter de convaincre Moscou d'infléchir sa position. Est-ce que François Hollande en a les moyens ?
S'il s'agissait de le convaincre d'une intervention militaire, on sait très bien que sur ce sujet-là, la Russie sera difficilement d'accord. Et on se souvient de la difficulté que cela a représenté d'obtenir de la Russie un accord sur l'envoi d'observateurs, simplement, de l'ONU. Donc je vois difficilement comment la Russie pourrait bouger sur ce point. Après, là où on pourra sans doute attendre des évolutions, ce sera à la mesure, on va dire, de l'affaiblissement progressif des positions de Assad. Mais pour l'instant, rien ne garantit que cet affaiblissement interviendra.